Et vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube sur Radio Panique et je suis en compagnie de mes invités, Romain Gelin, bonjour.
Bonjour.
Et Franck Van Arscott, c'est ça?
Bonjour, oui, c'est ça.
Bonjour, si vous êtes là tous les deux, c'est pour présenter le... c'est plus le dernier numéro, c'est l'avant-dernier numéro du Grésea Eco intitulé « Neutralité carbone, fuite en avant climatique ». Et donc dans ce numéro que vous avez coordonné, Romain Gelin, vous revenez un peu sur les différentes négociations climatiques qui ont émaillé ces 30 dernières années, si on peut dire, un peu les déboires que ces négociations ont eu et les espoirs qu'on y mettait, qui ont été souvent, le plus souvent, trahis. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la genèse de ce numéro? Comment vous étiez déjà venu l'année passée, je pense, pour parler de l'écologie aussi. Quels sont les liens entre les différents numéros et les différents articles?
Eh ben, le numéro de l'année dernière, en fait, ça visait à comprendre comment la théorie économique prenait en compte les questions écologiques. Et là, c'était un peu la suite, un an après la COP de Glasgow qui a eu lieu en novembre 2021. On voulait un peu faire le lien entre ces théories économiques et puis les négociations climatiques. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans un premier article, c'était de tracer un petit historique de comment s'étaient déroulées les négociations climatiques au niveau international depuis une trentaine d'années.
Et donc, chaque article montre aussi qu'il y a à chaque fois eu beaucoup d'espoir et qu'il y a quand même aussi eu des tensions entre les négociateurs, entre les pays, entre les objectifs qui étaient fixés. Comment dépatouiller un peu tout ça? À la lecture de ce numéro, je me suis dit que c'était vraiment une thématique qui était parfois compliquée, compliquée en soi, mais qu'on rendait encore plus compliquée.
Ouais, mais c'est vrai que c'est des articles qui sont hyper denses. L'exercice n'était pas évident de retracer en 10-15 pages 30 ans de négociations climatiques. Moi, je me suis intéressé à un peu à la manière dont ces accords avaient été négociés. Il faut dire qu'on part un peu de loin. La première fois qu'on a décidé de faire une conférence sur la question climatique, c'était en 1972, donc c'était il y a 50 ans exactement, à la conférence de Stockholm, qui a donné lieu à la création du programme des Nations Unies sur l'environnement, donc le PNU ou l'UNEP en anglais. Et en fait, là, la première fois, 72, c'est l'année de la sortie du rapport Meadows. Donc c'est le rapport qui a été commandé par le Club de Rome à des universitaires du MIT. Et c'est la première fois qu'on mettait dans des modèles climatiques. Donc c'est des modèles qui reprennent à la fois des éléments sur le climat, mais aussi sur le fonctionnement de l'économie, les ressources. Et donc c'était les premiers modèles climatiques qu'on utilisait. Et qui, selon pas mal de scénarios, selon pas mal de projections, nous montrait que déjà en 1972, on allait dans le mur. Donc le sous-titre du rapport Meadows en français s'appelait « Halte à la croissance ». Donc c'était la première réflexion sur le trop de croissance et le trop d'économie. Et donc en 72, ce qu'on décide, c'est de faire une grande réunion au niveau international et puis de se réunir tous les 10 ans. Donc il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises. En 82, 10 ans après, il y a le deuxième sommet de la Terre à Nairobi. Et là, 82, c'est le moment où on a c'est l'essor du néolibéralisme. Thatcher et Reagan sont au pouvoir. Et il y a un gros désintérêt pour l'environnement dans les années 70. C'était le début des mouvements environnementaux. Il y a pas mal d'ONG qui sont nées à ce moment-là, des grandes ONG environnementales. Et 82, c'est le retournement. Et en fait, en 82, il se passe vraiment rien du tout à ce sommet. Reagan envoie sa fille comme conseillère pour représenter les États-Unis, mais sa fille qui est pas du tout climatologue ni spécialiste du sujet, quoi. C'était vraiment une marque de désintérêt. Et finalement, en 1992, à Rio, au sommet de la Terre, on décide qu'on va se réunir désormais tous les ans. Et donc pour la COP sur le climat, donc c'est les COP dont on parle tous les ans, mais également pour organiser une convention annuelle sur la désertification et une convention sur la biodiversité, donc qui ont lieu aussi, qui n'ont pas eu lieu tous les ans. Donc on en est à la COP 15 pour la désertification et la biodiversité. Mais donc on avait déjà à cœur de traiter ces trois thématiques-là, et ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que dans les médias, en fait, on parle que de la question climatique, la désertification. Enfin, moi, j'en avais vaguement entendu parler, mais c'est un sujet qui passe complètement à la trappe. Et la COP sur la biodiversité, on en parle un peu. C'est quasiment tout aussi important que la COP sur le climat. Donc voilà, on prend cette décision de se réunir tous les ans, et dans la COP, il y a une première décision qui est pas très contraignante, mais l'article 2 nous dit qu'on doit stabiliser la concentration de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Et donc c'est le départ des négociations climatiques.
Et justement, enfin, plusieurs éléments déjà dans ce que vous venez d'évoquer. On voit aussi qu'il y a eu un changement dans les objectifs qui étaient portés au fil du temps. Et donc, on est passé de quelque chose d'assez, entre guillemets, ambitieux à quelque chose qui était complètement en retrait et je ne sais pas comment l'exprimer, mais qui était en creux plutôt que d'être un objectif positif, c'était ne pas dépasser. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, ce passage aussi vers cette question de ne pas dépasser soit les 2 degrés de réchauffement, soit les 1,5? Est-ce que ça représente aussi, est-ce que c'est symbolique aussi de la manière dont la question est traitée par ceux qui sont présents lors des COP? Ça, c'est une question. Et puis, avant, je la reposerai. Mais l'autre question, c'était de voir aussi, est-ce qu'il y a un changement dans le fait de parler de COP, et donc ces conférences des parties? Ouais. Est-ce que ça change, en fait, l'implication des pays du Sud, des mouvements de la société civile, des organisations, par rapport à ce qui aurait pu être décidé lors d'un sommet des Nations Unies? Est-ce que c'est les mêmes gens, en fait? C'est les mêmes intervenants, les mêmes participants à ces négociations?
Mais disons que les COP, c'est une réunion particulière dans les Nations Unies qui réunit, comme tu l'as dit,
qui réunit tout le monde.
Mais les parties signataires à la convention de cadre des Nations Unies sur le changement climatique, donc celle qui a été signée en 92. Elle réunit quasiment tous les pays. Je suis pas sûr que
qu'il y en ait
qui soient sortis. Peut-être quelques îles ou je sais pas si on a la Corée du Nord par exemple. Mais enfin bon, si on prend les émissions de gaz à effet de serre, on a quasiment tous les pays qui les émettent qui sont réunis. Et donc c'est un premier progrès parce qu'on met quand même sur la table le fait que c'est un problème suffisamment grand pour que tout le monde soit réuni et qu'on en discute tous les ans. Mais on n'arrive pas directement à des solutions hyper contraignantes parce que, par définition, quand on réunit 170 ou 190 pays autour de la table avec des intérêts divergents, tout le monde n'a pas envie de régler le problème de la même manière. Certains pays en 92 ont des dirigeants à moitié climato-sceptiques. Enfin, je peux reprendre le cas des États-Unis. À ce moment-là, on a le père George Bush qui est occupé à aller bombarder l'Irak. Donc le changement climatique, c'est pas la priorité non plus pour tous les pays. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la première COP, elle a lieu à Berlin en 95, 2 ans après. On discute, il se passe pas grand chose, et c'est au bout de la COP numéro 3 en 97 qu'on commence à prendre les premières décisions. Et en 97, ça se déroule à Kyoto, et donc c'est la signature du protocole de Kyoto, où là on va pour la première fois proposer des mesures économiques. Et donc l'objectif au moment de la COP de Kyoto, c'est de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a un objectif chiffré. Et il s'agit à ce moment-là de réduire les émissions là où c'est le plus efficace économiquement. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est proposer un marché du carbone, enfin deux marchés du carbone, un marché réglementé et un marché volontaire. On en reparlera sûrement un peu après. Et déjà, à ce moment-là, on grave sur le marbre le fait qu'il faudra pas contraindre trop l'économie. Donc l'environnement, c'est un problème, mais on n'a pas encore fait le lien formellement entre notre croissance économique et le fait que ça détruise l'environnement. Ce protocole de Kyoto, il est signé par 175 pays, mais finalement il y en a 37 qui vont vraiment le ratifier et participer. Et donc on va mettre des années pour négocier les modalités. En 2002, George Bush, le fils, fait sortir les États-Unis du protocole de Kyoto. Donc déjà, ça la fout un peu mal que le premier pays émetteur ne participe pas au mécanisme. Et les années qui vont suivre, de la COP numéro 5 à la COP numéro 12, jusqu'en 2006-2007, on va négocier les modalités de ce protocole. Et ce protocole, il va finalement pas être une réussite. Il y a beaucoup de pays qui vont juste pas respecter leurs engagements de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre. On a des pays qui vont un peu faire de la résistance et sortir avant la fin, comme le Canada, l'Australie. Donc ça va être vraiment un protocole dont les résultats vont être en demi-teinte.
Et justement, après, comme tu dis, ça a été évoqué dans les différents articles, il y a justement cette question de surtout pas contraindre complètement les États, et aussi ces deux marchés du carbone qui sont quand même un volontaire, comme tu l'as dit, et un
réglementé, disons.
Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus, et qu'est-ce qui les différencie et pourquoi on en est arrivé à faire ces deux marchés-là?
Ouais, bon, je vais essayer. C'est un peu technique, je vais essayer de la faire vite. Sinon, il faut aller lire le Grésé à écho de toute urgence. Donc, un marché réglementé. Pour donner un exemple, marché réglementé au niveau européen, c'est le système d'échange de quotas d'émissions. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les ans, les pays donnent leurs objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fonction de la quantité de CO2 qu'elles ont déclaré pouvoir émettre, elles mettent sur le marché du carbone des quotas ou des certificats de carbone. Donc par exemple, tous les ans, la Belgique dit « je peux émettre tant de CO2 » et elle émet les crédits et elle les distribue à ses entreprises. Donc théoriquement, sur ce marché réglementé, le nombre de crédits en circulation est fini, il est déterminé par les États, et ensuite, ça doit déterminer ce que les entreprises ont le droit d'émettre. Donc les entreprises émettent leur CO2, elles ont reçu leur crédit carbone. Les entreprises qui émettent un peu plus que ce qu'elles ont droit, elles doivent donc essayer de se procurer des crédits supplémentaires sur le marché. Et des entreprises qui émettraient un peu moins, elles peuvent revendre les crédits aux autres. Et en fait, ce marché au niveau européen, il a pas tellement bien fonctionné pour la simple et bonne raison que les crédits ont été distribués gratuitement aux entreprises. Donc l'espèce de contrainte qu'il y avait avec le marché de payer pour des émissions supplémentaires de CO2, elle a pas été effective du tout, puisque les entreprises ont reçu pour la plupart gratuitement les crédits de CO2. Donc par exemple, en Belgique, il y a des études qui sont sorties l'année dernière où on est revenu un peu rétrospectivement sur le fonctionnement de ce marché. Entre 2009 et 2019, je suis plus certain des dates, mais en gros sur la décennie 2010, les 5 premiers bénéficiaires des quotas gratuits en Belgique ont reçu pour plus d'un milliard d'euros de crédit carbone. Et parmi ces entreprises-là, on avait les plus gros pollueurs, donc ArcelorMittal, Total, BASF, Exxon à mon avis, et une cimenterie. Donc au lieu de contraindre les entreprises qui émettent beaucoup de CO2 à soit produire un peu moins, soit adopter des technologies pour réduire les émissions de CO2, mais en fait on a distribué des crédits, ce qui fait que ce marché n'a servi à peu près à rien, que les émissions de CO2 n'ont pas baissé suffisamment, et que donc ce marché a été plutôt un échec. Donc ça c'est pour le marché réglementé. Et à côté de ça, au moment de Kyoto, on avait créé un marché qu'on appelle volontaire. Et donc là, les crédits ne sont pas émis par les États directement, mais ils sont émis par des porteurs de projets, disons. Des porteurs de projets qui vont mettre en œuvre des projets de réduction du CO2. Donc ça peut consister par exemple à planter des arbres, protéger des forêts, installer des éoliennes. Et donc le principe, il est que quand on plante des arbres, on calcule préalablement combien de CO2 va être absorbé. Et donc en fonction de cette quantité qu'on aurait estimée, on met sur le marché des crédits carbone. Donc là, la différence, c'est que le nombre de crédits peut être infini. On peut planter des arbres ou des éoliennes, émettre des crédits carbone, et puis les crédits se retrouvent sur le marché. Et donc là, en fait, il y a des organismes privés qui sont censés venir certifier les projets. Il y en a eu 7 ou 8 000 depuis le début de Kyoto. Les trois quarts des projets, c'est soit des projets liés à la forêt, soit des projets liés aux énergies renouvelables. Mais là encore, ça n'a pas été satisfaisant pour tout un tas de raisons. Déjà, les critères pour évaluer les projets sont un peu lâches. C'est des certificateurs privés qui sont chargés de vérifier tout ça. Et même de manière générale, sur le principe, planter des arbres, ça peut être séduisant pour absorber un peu de carbone. Mais ce dont on s'est rendu compte, et ce que des scientifiques ont montré depuis, c'est que même si on plantait des arbres partout sur la planète où on a encore de la place pour en planter, en fait on arriverait seulement à absorber 10 ans de CO2 au niveau de production actuelle. Donc on voit qu'avec la croissance des émissions de CO2 au niveau mondial, planter des arbres, c'est complètement illusoire.
Et donc, c'est quelque chose que vous mettez en avant aussi dans le numéro, dans différents articles, c'est le fait que c'est un marché de dupes un peu aussi, et que ça contribue à ce qu'on peut appeler le greenwashing des entreprises qui disent « Ah ben, vous prenez l'avion autant que vous voulez et plantez deux arbres et tout ira bien, vous préservez... »
C'est un peu ça. Donc c'était là je reviens sur ce dont on avait parlé dans le précédent Grisea Eco sur la manière dont l'économie prenait en compte l'écologie, et la conclusion à laquelle j'avais abouti, c'était que toutes les solutions proposées, c'était et le marché et la technologie. Et en fait quand on voit comment se sont déroulées les négociations climatiques, c'est pareil. Ce qu'on a décidé, c'était que finalement le marché allait permettre, par le jeu de la main invisible, d'arriver à un équilibre au niveau des émissions de CO2, ce qui s'est pas produit du tout, et que l'autre pari qui a été fait avec les négociations climatiques, c'était que avec le renchérissement du CO2 grâce au marché, les entreprises allaient mettre en œuvre des nouvelles technologies pour polluer moins ou pour absorber le carbone, et ça s'est pas produit du tout. Derrière tout ça, quand on regarde un peu les négociations, la constante, c'est que les pays riches n'ont jamais voulu revenir sur leur modèle économique, sur le modèle de croissance, et n'ont jamais voulu brider l'activité des entreprises. Et finalement, on a jamais touché au nœud du problème, qui est cette croissance économique, cette volonté de produire toujours plus, sur laquelle on n'est toujours pas revenu aujourd'hui, malheureusement, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, les entreprises se font une joie avec le nouveau mantra qui est la neutralité carbone, de continuer à polluer et d'acheter par ailleurs des crédits carbone. Donc dans un des articles, je passe un peu en revue les projets de neutralité carbone de plusieurs secteurs économiques, et par exemple Total nous explique que d'ici 2030 ou 2050, ils ont prévu de stabiliser l'extraction de pétrole. Donc d'année en année, on va en produire toujours autant qu'en ce moment, sachant que c'est beaucoup trop, que la production de gaz va augmenter, mais que par contre, en 2050, Total sera neutre climatiquement. Donc par quel tour de passe-passe ils vont réussir à faire ça ? En achetant des crédits carbone, en plantant des arbres au Congo notamment, au Congo Brazzaville, et en mettant en œuvre des projets de pompage du carbone. Donc il y a un gros projet qui est mis en œuvre près des côtes de la Norvège avec d'autres compagnies pétrolières, qui consiste à absorber du carbone à la sortie des usines en Europe de l'Ouest, de les envoyer via un pipeline sur le site d'enfouissement, qui est un ancien gisement d'hydrocarbures. Et donc ce qu'on va faire, c'est enfermer le carbone dans des cavités, refermer gentiment avec du béton en espérant qu'il reste jusqu'à la fin des temps. Sauf que c'est des technologies qui sont encore balbutiantes. On ne sait pas si le trou va être bien imperméable. On n'est pas sûr que d'ici quelques décennies ou même quelques siècles, on ne va pas se retrouver avec un séisme et tout le CO2 va ressortir, ce qui fait que tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Donc voilà, c'est l'illustration du fonctionnement des entreprises aujourd'hui et de comment elles traitent cette question de l'environnement avec la neutralité carbone. C'est exactement ça, c'est du marché et de la technologie, et surtout ne pas revenir sur les pratiques économiques.
Oui. Et justement, c'est un des éléments clés de votre article aussi, Franck, c'est le fait de continuer à être dans l'utilisation des énergies fossiles aussi, et de ne pas remettre en question du tout ce modèle économique. Et vous faites aussi le lien avec l'actualité et la dépendance entre guillemets qu'on aurait face au gaz russe. Et comment ça fonctionne, ça, comment on peut dépatouiller tous ces enjeux qui quand on en entend parler au quotidien dans les grands médias, ça semble un peu confus et complexe, et je pense que c'est bien d'avoir un éclairage un peu plus approfondi. Et ça, c'était une des questions. Et puis il y a aussi la question de la temporalité qui pose question, de se dire on est dans une urgence, mais pourtant on parle encore de faire des choses pour 2050, pour 2100. Et donc, mais je vous donne la parole, Franck Van Aerschot, pour expliquer un peu quel est le point de vue que vous avez développé dans votre article.
Ok. Peut-être tout d'abord, ce qu'on a essayé de faire dans cet article, c'est de lier plus spécifiquement le lien entre la finance et le climat, les énergies fossiles. Et en fait, on a bien vu que, comme Romain il a déjà bien expliqué, comme les acteurs de marché, comme les compagnies d'énergie ont un rapport assez étrange avec les questions du climat, dans la finance, c'est un peu comme ça aussi. C'est pas qu'ils s'intéressent pas, c'est pas comme dans les années 80, c'est pas qu'ils s'intéressent pas du climat, ils s'intéressent beaucoup au climat, mais ils s'intéressent encore plus à leur propre profit. Et du coup, en fait, ce que j'ai essayé de faire, parce que ça fait 12 ans que je travaille sur le lien entre le climat et finance, et j'ai travaillé pendant très longtemps chez Fairfin, surtout sur la finance privée, les banques privées, les banques commerciales. Et là, maintenant, en fait, je suis dans une autre organisation, ça s'appelle Counterbalance. Et là, je travaille au niveau européen sur la finance publique. de banques d'investissement public, de fonds européens, etc. Et il a commencé de parler des COP. Et pour moi, en fait, je suis allé pour la première fois l'année passée, pas au COP même, mais au genre contre-sommet, le contre-COP. Et c'est vraiment, c'est, dans cet article, j'ai écrit ce que j'ai pensé après, parce que c'était vraiment fou. Parce qu'apparemment, nous, on fait un truc fou, c'est de prendre ce problème vraiment au sérieux, ce problème de climat. Nous, on essaie de se dire, mais si on voudrait vraiment régler ce problème, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Et c'est pour ça que Romain, il a écrit aussi un bon livre là-dessus, sur genre, mais oui, mais la croissance, l'utilisation des matières physiques, c'est pas très compatible avec les limites sur lesquelles on est en train de tomber. Et on voit les conséquences de plus en plus. Et dans le secteur financier, c'est exactement pareil, en fait. Et une des choses qu'on vit dans ce COP où moi j'étais à Glasgow, en fait, c'est la première fois que le secteur financier était très présent. Il y avait toutes les grandes banques, fonds d'investissement, etc. Ils étaient là pour dire, ah, on va sauver le climat. Sauf que, en fait, c'était vide. Et tous les gouvernements qui étaient là, ils ont tous donné la place aux banques. Ah, c'est génial, vous allez fournir l'argent, on est sauvés. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Parce qu'il y a toutes les grandes banques qui sont là, ils disent, oui, oui, nous, on va sauver le climat. Une quantité énorme d'argent qu'ils vont utiliser pour sauver le climat. Sauf que si on va regarder la réalité, on voit que ce sont les mêmes banques qui investissent le plus dans les énergies fossiles, le plus dans de continuer à extraire de nouveaux sources de pétrole, de gaz, de charbon. Tandis que même maintenant, il y a même l'Agence internationale énergie, on dit comme ça en français. Ouais, je suis flamand d'ailleurs. Voilà. C'est la première fois que je parle de cet article en français. Du coup, pitié avec moi. Patience, je veux dire. Cette instance qui n'est pas du tout, ce ne sont pas des activistes climat du tout. Hein, et ils ont dit l'année passée, bah, écoute, à partir de 2022, cette année, il faut arrêter d'ouvrir de nouvelles sources de pétrole. Et il n'y a aucune de ces banques qui a fait cette déclaration 4 mois après. Aucune de ces banques, aucune de ces fonds d'investissement qui est dedans, sauf une peut-être, la Banque Postale de France, qui a agi là-dessus. Et ça, c'est vraiment, c'est extrême. C'est vraiment extrême. Et après, je pense que c'est important, hein, qu'on va très vite... Non, je veux d'abord dire une chose, parce que ce que moi, j'ai vu, il y a un pays maintenant qui a fait quelque chose d'intéressant. En Colombie, il y a eu un nouveau président, Gustavo Petro, et il a été autant fou, parce que tous les investisseurs internationaux, ils lui ont dit qu'il était complètement fou, parce qu'il y a eu l'idée de dire, écoute, et c'est un pays d'énergie fossile assez important, dit, nous, on veut arrêter les nouvelles explorations d'énergie fossile. Et ils ont dit qu'il était complètement fou, parce qu'il allait dire ce qui était en fait nécessaire. Et il a gagné les élections, et il était, la semaine passée, il était à New York, parce qu'il y a la préparation du COP suivant. Et je trouve qu'il a dit assez bien, parce qu'il a dit, écoute, en passant du COP à COP à COP à COP, on se précipite vers l'abysse. Parce que ce qui manque vraiment, c'est de confronter ces intérêts économiques, ces intérêts qui n'ont pas intérêt à arrêter cette machine qui nous met tous dans... qui nous crée des problèmes pour nous tous. Et je veux bien dire ça parce que on doit le lier aussi au problème d'énergie. Aujourd'hui, on pense qu'on est dans une super grande crise énergétique, ça nous manque, le gaz, etc. etc. Mais, en fait, aujourd'hui, on est en train de payer le prix d'avoir privatisé complètement le marché d'énergie et d'avoir accepté que c'est la finance privée qui peut décider complètement comment on va investir dans le secteur énergétique. Parce qu'en fait, si on n'a pas assez d'énergie aujourd'hui, c'est aussi parce que dans la décennie qui est avant, ou les 20 ans, ou combien d'années, on n'a pas pris au sérieux les problèmes qui sont là. Et les compagnies, et en fait, même si on nie le problème climat, ce qu'on a vu, parce que genre maintenant, les prix du gaz sont super hauts, mais les 5 dernières années, les prix étaient bas. Et des compagnies comme Total, etc., d'un côté, ils investissaient pas assez dans de nouvelles sources d'énergie, que ce soit renouvelable ou fossile, pour faire en sorte que dans le futur, il y aura assez d'énergie pour la demande. Si on accepte les demandes comme ça, hein, ça c'est une autre question. Mais évidemment, ils faisaient beaucoup trop si on regarde au niveau du climat. Et ils ont fait ça parce que avec le prix du pétrole qu'ils avaient, ils n'estimaient pas assez profitable de faire beaucoup plus de nouveaux extractions de gaz, etc. Mais par contre, ce qu'ils ont fait tout le temps, que le prix soit haut ou bas, c'est de verser des dividendes à leurs actionnaires à fond, à fond, à fond, à fond. Et c'est ce qu'on voit maintenant aussi. Toutes ces entreprises, Total, Engie, ExxonMobil, etc., maintenant que, pendant que nous, on est en train de s'appauvrir avec nos factures de gaz, etc., eux, ils font des profits faramineux. Ils ont déjà versé plus de 30 milliards d'euros de dividendes pour les premiers 6 mois de l'année. Hein. Du coup, c'est, on est dans ce problème-là. Mais aujourd'hui, il y a la question, du coup, en Europe, genre, ah oui, est-ce qu'on a besoin de nouvelles extractions de gaz parce qu'on est dans ce problème avec la guerre en Ukraine, etc. Mais la réalité est qu'on n'a pas de place pour ça. Et en Europe, genre, l'Europe qui se dit être le champion climat, qui a fait un Green Deal il y a quelques années, le grand accord politique pour régler les problèmes climat avec un plan d'investissement avec, si tu prends ensemble, plus entre genre peut-être 700 milliards d'euros. Et maintenant, ils disent, ah non, 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 maintenant, on va faire un nouveau truc, on va faire Repower EU, 18 mai, avec, qui était présenté comme un programme pour faire plus vite la transition, mais où il y a aussi des milliards d'euros disponibles pour faire de nouvelles infrastructures de gaz. Et ça, c'est vraiment de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. C'est trop tard. Du coup, ça, c'est encore... Je reviens à ce qu'a dit cette agence d'énergie internationale. La limite, on a déjà passé la limite. On est déjà dans le rouge, clairement. Et construire de nouvelles centrales de nouvelles infrastructures, de nouvelles extractions, déjà, ça ne va pas nous aider pour cet hiver. Ou l'hiver prochain, bonne question. Parce que ça prend du temps pour construire tout ça. En plus, une fois que c'est là, il y a un intérêt économique qui est là pour que ça fonctionne, pour que ça soit rentable, il faut que ça soit là pendant 20, 30, 40 ans. Du coup, tu crées des intérêts économiques pour polluer encore beaucoup plus. Et du coup, en fait, on ne peut pas faire ça. On doit vraiment se poser la question, ok, jusqu'où on peut faire des renouvelables, etc., etc. Et c'est quoi toutes les mesures possibles pour réduire la consommation d'énergie, avec évidemment le besoin que, en tant que famille, etc., et que des activités vraiment importantes, qu'il y a de l'énergie pour faire ça, évidemment. Mais je prends juste une question. On a travaillé pas mal sur l'industrie de plastique et il y a un grand projet de construire une nouvelle usine de plastique dans le port d'Anvers qui consomme énormément d'énergie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Combien d'énergie on pourrait économiser si on ne construit pas cette usine de plastique? Si on va un peu moins produire de plastique, ou peut-être il y a certaines autres activités, évidemment, il faudrait compenser les travailleurs et tout, etc. Mais ce sont des types de questions que nous, nous devons nous poser. Et ça m'a fait penser aussi au début du Covid. Pas que j'ai tellement envie de penser à cette période tout le temps, mais il y a eu une question importante, intéressante, parce qu'on s'est dit à un moment, mais c'est quoi l'économie essentielle? Quand tout doit fermer, qu'est-ce qui sont les activités dont on a vraiment besoin? Et c'est ça, c'est la question que nous devons nous poser. Mais ça, c'est très difficile quant à une commission européenne et des gouvernements européens qui, quand il y a un souci d'énergie, et c'est ça que Ursula von der Leyen, la commissaire, la tête de la Commission européenne, a fait une fois que la guerre avec la Russie a commencé. Elle a appelé Total, a appelé Engie, a appelé toutes les autres, Shell, etc. a dit « Ah, est-ce que vous avez des idées pour régler ce problème ?» Le résultat, c'est qu'il y a eu, je pense, 15 nouveaux projets pour des infrastructures de gaz. C'est pas étonnant. Et c'est là que le rôle de l'argent public devient très important. Parce que dans nos recherches, on a vu aussi qu'en fait, c'est un consultant, McKinsey, ils ont fait un rapport pour la Commission européenne aussi en 2020, où ils ont calculé c'est quoi tous les investissements dont on a besoin pour faire la transition. Et c'est bien sûr, c'est la transition, le type de transition dont Romain a parlé, avec mettre du gaz, mettre des émissions CO2 en Norvège, dans les gaz. Et c'est drôle que tu parles de ça, parce que la semaine passée, j'ai fait un débat avec un travailleur de Air Liquide qui est dans le port aussi. Okay. Et en fait, la Commission européenne, en partie des fonds, que ce soit du Green Deal ou le Recovery Fund, un programme qui est venu après, autour du Covid, il y a de l'argent public qui est donné à des entreprises pour faire ce type de projet. Parce que ce genre de projets, ils sont beaucoup trop chers. Le marché n'investirait pas dedans seul, pas jamais. Je peux continuer ou tu
Oui, oui, mais du coup, j'avais cette question de savoir, dans votre article, vous évoquez la nécessité d'avoir ce grand programme d'investissement public, donc c'est nécessaire. Mais on voit quand même que quand il y a investissement public, il y a cette espèce de lobbying. Ursula von der Leyen, elle contacte Total pour avoir une solution au problème. Donc comment sortir de ça? Je sais que c'est une question à laquelle on ne répondra sans doute pas aujourd'hui. Mais je veux dire, quelles sont les pistes justement pour rendre cet investissement public réellement public et que ce ne soit pas, comme vous l'évoquez aussi, la socialisation des risques et des pertes et la privatisation des profits, quoi. Ce à quoi on assiste aujourd'hui. Comment régler cette solution de se dire, oui, clairement, il faut faire en sorte que les actionnaires de Total ou d'Engie ne s'en mettent pas plein les poches alors qu'on se retrouve avec des factures à payer, même pas les particuliers aussi. On se rend compte que là, il y a des universités qui sont en train de dire qu'elles vont remballer les étudiants chez eux, les entreprises publiques aussi qui vont renforcer le télétravail. Donc, on est clairement, comme le titre le dit, dans une fuite en avant. Quel est l'horizon?
Bon, je vais essayer de répondre
en 10
à
minutes,
ça.
Max.
Ah, 10 minutes. Je pensais en avoir 4. Alors, 10, c'est large. Mais je veux d'abord donner, selon moi, c'est une bonne nouvelle. Je pense que justement cet investissement public, l'argent public est, selon moi, un levier énorme dont on ne se rend pas très bien compte en tant que société combien on pouvait peser, combien de pouvoir potentiel nous avons avec ça. Et ça, ce sont nos impôts, ça, c'est l'argent quand on travaille, qu'on paye à l'État, etc. C'est cet argent, ce pouvoir public. Et d'abord, on doit un peu comprendre comment se font les investissements publics maintenant. Et je vais vite fait finir. Ce rapport de la Commission européenne disait en fait, OK, il faut X nombre de milliards d'investissements. En fait, ce qui était pertinent, c'est que c'est une quantité d'investissement qui est, c'est une grande quantité, mais c'est pas non plus impossible, je sais, genre 5 ou 7% de l'économie. Ça parle peut-être pas trop aux gens, mais c'est pas impossible à faire. Ça a déjà été fait, ce genre de niveau d'investissement dans l'économie. Mais ils ont constaté que seulement moins que la moitié de tous ces investissements qui doivent être faits sont commercialement intéressants. Du coup, le marché ne va pas les faire. Tous ces banques qui étaient à la COP, là, ils ne vont pas le faire. Ce qu'ils ont dit, ils ne vont pas le faire. Sauf si l'État fait les garanties. Sauf si, et il y a des gens, un des gars, Larry Fink, le boss de plus grand fonds d'investissement au monde, il a dit, cash, il a dit, moi je veux investir dans la transition, celle de Total, etc. Mais les États doivent faire l'assurance contre les pertes. Si vous êtes ça, moi j'investis dans ça, et sinon, non. Et c'est ça que, genre, il y a le Green Deal en Europe. Après, il y a eu le Recovery Fund, aussi en Europe avec le Covid. Maintenant, il y a Repower EU là-dessus, avec cette crise. Et qu'est-ce que ça fait? C'est tous les trucs pour les entreprises pour dire, écoute, viens ici, viens avec tes projets. Nous, oui, je sais, c'est pas profitable, t'as pas encore envie d'investir dedans. Nous, on va mettre l'argent du contribuable. Vous mettez un peu d'argent aussi. Vous allez faire les premiers profits. Si jamais il y a des problèmes, nous, on va payer. Et nous, c'est bien nous-mêmes, hein. C'est pas Ursula von der Leyen, les gens qui décident ça, c'est nous. Et du coup, ce que moi, je propose dans l'article, et d'ailleurs, il y a une nouvelle version de cet article qui va apparaître la semaine prochaine dans le nouveau magazine Lava, c'est que, ben non, on ne doit pas faire ça. On doit utiliser, on doit faire un autre truc fou, non seulement prendre la crise climat vraiment sérieux, on doit utiliser l'argent public pour le public. ça a l'air évident, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe maintenant. Et en fait, on pourrait aussi, et par exemple, on voit maintenant dans cette crise énergétique, en 2008, on a dû sauver les banques. Maintenant, il y a déjà plusieurs entreprises énergétiques qui ont dû être nationalisées. Est-ce qu'on va faire la même chose qu'avec les banques, ou est-ce qu'on va se dire, ah, mais si ça a besoin d'être nationalisé, peut-être on a intérêt à que ces entreprises ne font pas d'abord tout pour faire de profit, mais pour qu'on ait une certaine souveraineté, autonomie en approvisionnement d'énergie, que ce soit durable, etc. Et du coup, ce que moi, je plaide pour que utiliser ces énormes plans d'investissement public pour faire des projets qui vont vraiment bénéficier à nous. Et on dit toujours que oui, mais ça, c'est pas possible parce que il y a besoin de trop d'argent. L'argent public n'est pas disponible à ça. D'un côté, si on avait l'intention de pas juste remplir les trous du marché, et ces trous deviennent de plus en plus grandes, et c'est pour ça qu'on a aussi de plus en plus grandes interventions publiques dans le marché, de plus en plus grandes plans d'investissement public pour le marché. Au lieu de remplir ces trous, on va faire des choses dont nous on a besoin. Et puis, on peut aussi, et là, je suis désolé, ça n'a rien. Un peu technique aussi, mais en fait, la Banque Centrale Européenne, dont on parle très peu, elle a, les dernières 15 ans, depuis 2008, elle a mis autant d'argent dans les marchés financiers qu'en fait, maintenant, cette quantité totale en Europe, c'est la moitié de toute l'économie européenne. Si on utilise seulement une partie de cet argent pour ne pas aider ces fonds d'investissement et ces banques, mais pour faire en sorte que les banques d'investissement public et les gouvernements aient une plus grande capacité d'investissement dans une vraie transition solidaire qui peut nous aider tous, ben on aurait beaucoup plus de moyens. Mmh. Mais vraiment beaucoup plus. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on s'approprie de cette question. Et nous, on fait la recherche, c'est un réseau où je travaille, on a des partenaires en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, dans l'Europe de l'Est, c'est chouette. Mais ça, c'est vraiment une lutte à construire, ensemble avec des syndicats, avec des autres, etc. Et c'est pour ça que c'est très chouette d'en parler aujourd'hui aussi.
Eh bien, Romain, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? À part d'aller, de se précipiter pour lire le Grisé à Echo.
Ouais, ça c'est vraiment la première chose à faire. après, non, mais je suis d'accord avec Franck. quand on voit les sommes qu'on est capable de mettre au moment de la pandémie, ce qu'on a mis depuis 10 ans pour renflouer des fonds de pension, des banques ou ce genre de choses, et même ce qu'on est en train de faire en ce moment, en fait, on est en train de distribuer des chèques mazout, de diminuer la TVA pour subventionner une énergie fossile, en fait, alors qu'on se réengage chaque année à en émettre un peu moins. Je pense qu'il y a une partie qui devrait être d'urgence, une partie de ces financements qui devrait être d'urgence être mise dans l'isolation des bâtiments, au lieu de subventionner du mazout qui va nous coûter 2, 3, 4, 10 fois plus cher cet hiver. Peut-être qu'on devrait d'urgence imposer aux propriétaires de mettre fin à toutes les passoires énergétiques, mettre de l'argent dans les transports publics par exemple. Donc ça c'est des mesures de court terme, ça va pas résoudre tous les problèmes. Et ensuite, pour revenir sur les décisions politiques, et on a parlé un peu de ce qui s'était fait depuis 30 ans, il faudrait de toute façon revenir à des formes de démocratie un peu plus participative. Donc si on demande aux gens par référendum ou par convention citoyenne quelles mesures ils ont envie de prendre, on ne tombe pas exactement sur les résultats que les politiques sont en train de nous proposer. Donc l'exercice a été fait il y a quelques années en France avec la convention citoyenne. Il y a un site internet sur lequel on retrouve les 100-150 mesures qui ont été proposées par des gens tirés au sort et formés de manière critique et contradictoire au sujet, et on se rend compte qu'on a des propositions beaucoup plus ambitieuses que ce qu'on a aujourd'hui, et qu'il s'agira pas de subventionner le marché ou de proposer les mêmes solutions que l'Europe nous propose. Donc via les luttes, je pense que comme on commençait à le faire les Gilets jaunes il y a quelques années, on devrait réclamer plus de démocratie participative et que les populations puissent reprendre d'une certaine manière en main les décisions politiques qui vont être prises.
Grand programme.
Très grand programme.
Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé du tout, mais le numéro se termine aussi sur un article qui revient sur comment on peut construire une approche syndicale de la transition écologique. Et donc, il y a quelques éléments que vous venez de citer qui figurent dans cet article aussi, justement pour mieux comprendre aussi comment fonctionnent les entreprises, recréer du lien aux différents niveaux.
Et à ce propos, avant qu'on se quitte, je voulais en profiter pour annoncer une soirée qui sera organisée avec le MOC et la CNE lundi prochain à la rue Plettings, où j'interviendrai notamment. Il y aura Karine de Greenpeace et il y aura également un délégué de Total. Et donc on discutera précisément de toutes ces questions, de comment les syndicats, les travailleurs dans les industries fossiles et les ONG qui travaillent sur le climat peuvent déjà amorcer une discussion et essayer de proposer des solutions en commun. Donc c'est des discussions qui sont encore balbutiantes, pas évidentes, parce que il y a des intérêts parfois divergents entre les travailleurs de Total et Greenpeace, pour le dire un peu caricaturalement. Mais donc voilà, il y aura une chouette soirée lundi prochain où on discutera tous ensemble de ces questions.
Donc c'est 19h, rue Plettings, numéro 19.
Exactement.
Et je pense qu'il y a une autre rencontre, mais je n'ai pas vu annoncer à Timister. On ne va peut-être pas en parler, le 6 octobre.
Ouais.
Voilà.
Faudrait être vraiment très courageux
pour y aller. Mais le 13 octobre aussi, il y a un débat auquel vous participez sur la possible réouverture des mines en Europe.
Ouais, voilà. Ouais, exactement.
Ben merci beaucoup à tous les deux d'être venus. C'était riche et il y aurait 10 émissions à faire encore sur cette question-là. Merci de vous être déplacés en tout cas de grand matin, voir les 100 marches. Et nous, on se quitte.